Vous écoutez, on lit pour vous.
Un état d'esprit, ça se change. Un texte de Caroline Fortin, paru dans Bel Âge. Pour modifier notre vision des choses, tout est question de lunettes et d'entraînement à voir le positif. On a tendance, selon notre tempérament et notre bagage de vie, à nous comporter de la même manière devant divers événements du quotidien. Râler au réveil, s'impatienter devant un quidam, voir d'emblée le verre à moitié vide, s'inquiéter outre mesure à propos d'un rendez-vous, déverser notre colère à la moindre contrariété, faire une montagne de choses pourtant anodines. Toutes des réactions teintées par notre état d'esprit qu'on peut apprendre à modifier pour le mieux. De quelle couleur sont nos lunettes? Pour l'exprimer simplement, l'état d'esprit, c'est l'angle avec lequel on envisage l'existence. Ou, comme l'illustre joliment Manon Breton, coach de vie, auteure, conférencière, et enseignante qualifiée de mindfulness, ce sont les lunettes qu'on porte et qui transforment notre regard sur les choses. À certains moments, elles sont plus sombres et nous font réagir en conséquence à une situation donnée. Pour Sébastien Grenier, professeur au département de psychologie de l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, il s'agit d'une façon de voir les choses, de percevoir notre environnement. Et puisque pensées, émotions et comportements sont interreliés, notre perception influence nos émotions, puis nos comportements. D'où ces réactions bien ancrées, conditionnées par les années et notre tempérament. Ne dit-on pas d'un ou d'une de nos proches qu'il est né de mauvaise humeur ou qu'elle est colérique? Certes, on a tous une personnalité propre qui se développe en vieillissant. Mais ce n'est pas parce qu'on est comme ça depuis 50 ans que c'est inchangeable, ajoute Sébastien Grenier. Il est difficile de départager la part attribuable à notre génétique de celle qu'il est à notre environnement. Ça signifie qu'on peut agir sur au moins une variable nous-mêmes. Mise au point. Si l'humain a survécu jusqu'ici, c'est grâce à ses pensées négatives, souligne d'entrée de jeu Manon Breton. La partie la plus vieille de notre cerveau, celle qui nous incite à nous battre ou à fuir devant le danger, est restée la même depuis les débuts de l'humanité. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui des dizaines d'alertes de stress bénignes chaque jour. Courriels pas clairs, amis qui nous jugent, rendez-vous médical, et que notre système nerveux ne passe jamais du mode sympathique au parasympathique pour rééquilibrer le niveau de stress. Alors, on accumule nervosité et anxiété. C'est donc à notre cerveau primitif que nous devons ce que la psychologie appelle le biais négatif, qui affecterait 80% de nos quelque 70 000 pensées quotidiennes. Un instinct de conservation basé sur l'anticipation, résume la coach de vie. Or, on possède en 2020 assez de connaissances sur le monde pour ne plus avoir besoin de tout anticiper. La clé pour contrer cet instinct? Entraîner notre cerveau à changer d'état d'esprit, ce qui va nous amener, et c'est crucial, à être présent à soi-même. Première clé, s'observer. Pour modifier notre état d'esprit, il faut d'abord prendre conscience de nos pensées ou émotions négatives. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps ni le recul pour s'auto-observer, affirme Sébastien Grenier. « Ai-je tendance à voir tout en noir, Mon premier réflexe est-il l'évitement, l'anxiété, la colère? C'est un exercice qu'on peut faire seul ou avec l'aide d'un psychologue. Pour Manon Breton, la beauté, c'est qu'en s'observant, on rompt notre chaîne infinie de pensées, d'inquiétudes, de jugements envers nous-mêmes, d'insatisfaction et de stress. Notre hamster ne roule plus, car notre attention est centrée sur le moment présent. Ce fameux moment présent, si galvaudé, reste le seul espace où on n'est ni dans l'anticipation de l'avenir, ni dans le ressassement du passé. C'est là qu'il faut se réfugier pour modifier notre état d'esprit, et ce, dans n'importe quelle situation. Poursuit celle qui a signé « Le courage d'être ici ». Comment? D'abord en prenant un point d'ancrage. Nos sensations physiques, le sol sous nos pieds, le vent sur notre visage. On désamorce ainsi l'émotion qui s'apprête à nous submerger. Ce n'est pas tant l'objet qui compte que de déplacer notre attention sur autre chose que nos pensées automatiques pour revenir à soi. Les résultats qu'on peut obtenir à la longue en prenant le temps, chaque jour, d'être l'observateur de soi, sans aucun jugement et avec beaucoup de bienveillance, s'avère impressionnant. Deuxième clé, changer notre discours intérieur. Oui, se parler. En thérapie cognitivo-comportementale, on appelle ça la restructuration cognitive, explique Sébastien Grenier. Par exemple, si on a tendance à se déprécier, à se décourager, à se croire incapable de surmonter un défi, on se tient le même discours qu'on aurait pour un de nos meilleurs amis. En changeant de position, on change aussi de perception. Les personnes anxieuses, elles, doivent apprendre à dédramatiser, à relativiser. Mais pour entraîner notre cerveau, il faut répéter ces exercices souvent. On ne récoltera pas de résultats du premier coup. Se parler, ça peut aussi signifier s'enjoindre à ne rien faire. Quand survient une pensée négative, on devrait la voir comme un bateau qui se profile à l'horizon. On le regarde, on le laisse voguer, et puis partir. Bref, on pratique la distanciation mentale, illustre le psychologue. Dans le même sillage, on essaie de remplacer nos pensées négatives par des pensées positives, poursuit-il. Ça fonctionne, mais pas toujours. Mieux vaut imaginer ses pensées comme une personne qui réalise qu'on ne lui accorde pas assez d'importance et qui finit par s'en aller. Elle reviendra de moins en moins fréquemment, puis elle disparaîtra. Troisième clé, respirer par le nez. Littéralement, on prend trois longues respirations par le nez en portant attention au mouvement du souffle qui descend dans nos poumons, notre abdomen, puis remonte jusqu'aux narines. C'est quelques 20 secondes où on délaisse notre hamster pour se concentrer sur nous-mêmes, permettent au système nerveux parasympathique de s'activer et de nous faire revenir au calme, assure Manon Breton. Grâce à la neuroplasticité du cerveau, on peut s'entraîner à sortir de nos sentiers battus neuronaux et à apprendre de nouvelles compétences, dont celle de respirer consciemment. Si, par exemple, dans une file d'attente, un impoli nous coupe et qu'on sent la moutarde nous monter au nez, stop! On s'arrête et on s'observe. On réalise qu'on est crispé. On se trouve un point d'ancrage. On se parle. Voyons, à quoi te servira-t-il d'élever la voix, voire de lever les poings? Relax, la terre est peuplée de malappris. Mais as-tu remarqué le sourire de cette jante dame à ta droite? Le rayon de soleil qui inonde le comptoir? Respire. Pense à autre chose. Ça s'applique aussi au sens figuré. Quand la frustration naît d'une situation qui nous échappe ou nous hérisse, on peut se répéter cette grande vérité. Même si on s'énerve, les choses resteront bien souvent comme elles sont. Notre croisière réservée des mois à l'avance est annulée pour cause de pandémie. On rabâche les mots « malchance »,« injuste » et « vacances ratées ». D'où nous vient ce scénario mental? De nos attentes, de la comparaison. Mais les attentes sont illusoires, insiste Manon Breton. Tant qu'on se laissera gérer par nos attentes, on sera déçu. Tandis que si on se place dans le moment présent, qu'on observe notre environnement, notre respiration, nos sensations, la déception n'existe plus. Un plan qui échoue peut ainsi se transformer en occasion de découvrir notre quartier, de visiter des amis délaissés, de lire ces livres qui reposent sur notre table de chevet. En mettant ces trois principes clés en pratique chaque jour, le pire qui puisse arriver sera de devenir plus conscient de nous-mêmes. Voilà justement la première condition pour agir sur notre état d'esprit. Trois trucs pour changer d'état d'esprit. 1. Si on se lève marabout, on déplace notre attention sur un point d'ancrage dans ce qui nous entoure. On respire, on laisse défiler notre flot de pensées. On se demande ce qui nous ferait plaisir et on se concentre là-dessus, suggère Sébastien Grenier. 2. Si on stresse avant d'aller chez le médecin, qu'on craigne de recevoir de mauvaises nouvelles ou d'être atteint d'un virus, l'inconnu reste le plus inquiétant, rappelle le psychologue qui conseille de relativiser. Il faut sous-peser la menace par opposition au défi. La peur semble nous protéger, mais elle peut aussi nous nuire si on fuit notre rendez-vous, puisqu'elle retarde la connaissance de notre état de santé. 3. Si on voit toujours le mauvais côté des choses. En général, les gens très négatifs ignorent qu'ils le sont, remarque Manon Breton. La base, c'est de ne pas nourrir nos pensées négatives d'anticipation, de peurs apprises dans le passé et de conditionnements qui nous entraîneront dans une zone de stress ou d'anxiété. On mise plutôt sur ce qu'on peut contrôler. Ça semble simple, mais ce qui est difficile, c'est de mettre ce principe en pratique régulièrement, relève Sébastien Grenier. Car souffrir est beaucoup moins apeurant que changer. C'était un état d'esprit, ça se change. Un texte de Caroline Fortin, paru dans Bel Âge.
Comment casser le moule du médecin stéréotypé? Une chronique de Nathalie Collard, parue le 26 mai 2024 dans la presse. Oui, il faut avoir de bonnes notes pour entrer en médecine. Mais au-delà de la sacro-sainte cote R de 33 ou plus, les facultés de médecine ont d'autres outils pour choisir les futurs médecins et s'assurer d'une certaine diversité. Ce n'est pas parce que vous avez une cote R très élevée que ça fait nécessairement de vous un bon professionnel de la santé, lance Patrick Cossette, doyen de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Nos critères ont évolué avec les années pour être plus inclusifs. Il y a quelques années encore, on n'aurait jamais entendu ces paroles dans la bouche d'un doyen de médecine. Mais le monde change. Et les facultés ont dû, elles aussi, s'adapter. Bien sûr, Il y a un passage obligé pour entrer en médecine, un programme contingenté qui accepte environ un étudiant sur 10. Les critères sont à peu de choses près les mêmes dans les 4 facultés de médecine de la province. La première sélection se fait sur la base des notes et du test CASPER, mis en place en 2010 pour évaluer les compétences transversales comme l'empathie, la communication ou le leadership. L'Université McGill est la seule à allouer 10 % de la pondération au curriculum vitae du candidat. Mais que vaut le test CASPER quand on sait que la majorité des étudiants ont recours à l'aide d'un coach pour s'y préparer? C'est vrai qu'il y a des coachs, reconnaît le Dr Cossette, mais c'est ce qui existe comme outil standardisé pour le moment. Les candidats appelés à l'entrevue doivent ensuite se soumettre à une série de mises en situation évaluées par des comités composés, selon les facultés, de professeurs, de patients partenaires et de gens issus de la diversité. À noter que l'étudiant passe une seule entrevue qui comptera pour toutes ses demandes d'admission. Est-il possible de détecter dès l'admission les candidats qui feraient de bons médecins de famille? À 19 ans, c'est difficile à dire, à moins que l'étudiant ait baigné là-dedans et qu'il arrive avec l'idée de devenir médecin de famille, explique le Dr Cossette. C'est l'expérience étudiante et l'exposition clinique durant la formation qui font la différence. C'est la partie que je contrôle en tant que doyen, susciter des vocations. Plus de diversité. On a souvent reproché aux facultés de médecine, avec raison, d'être des milieux homogènes, des milieux privilégiés qui ne reflétaient pas la société. Les facultés en ont pris acte. Nous avons une responsabilité sociale d'assurer une diversité d'origine et d'expérience, affirme le doyen de la faculté de médecine de l'Université Laval, Julien Poitras. Depuis 2008, le programme des facultés de médecine pour les Premières Nations et les Inuits au Québec réserve des places à des étudiants issus des communautés autochtones dans les 4 facultés de médecine. Plusieurs facultés ont également des programmes qui permettent aux étudiants en médecine d'aller à la rencontre des jeunes autochtones pour les intéresser aux sciences de la santé. L'Université de Sherbrooke propose aussi des programmes destinés aux étudiants des régions éloignées et aux francophones hors Québec. Toutes les facultés offrent en outre des programmes d'accès aux étudiants issus de milieux socio-économiques défavorisés. Depuis 2021, les universités de Montréal et McGill ont un programme d'accès aux étudiants noirs qui leur garantit une place à l'entrevue à condition qu'ils répondent aux exigences d'admission. Du côté de l'Université McGill, les 2/3 des étudiants admis en médecine ont déjà un diplôme universitaire. À l'Université Laval, la proportion est de 45 %. Moi, par exemple, je viens des arts visuels, lance le doyen Julien Poitras. C'est une autre forme de diversité. On est au début d'une démarche et on est à l'écoute des suggestions, poursuit-il. Toutes ces mesures ont été mises en place pour casser l'image qui colle aux étudiants en médecine, celle d'un jeune issu d'une famille de médecins ayant grandi dans un quartier huppé. Une image qui n'a plus grand-chose à voir avec la réalité. Une 5e faculté de médecine au Québec? Faut-il créer une nouvelle faculté de médecine pour former des médecins de famille? C'est la proposition d'Alexandre Cloutier, président du réseau de l'Université du Québec, UQ, qui souhaite mettre ses 10 établissements à contribution. Avec 100 000 étudiants répartis à travers le Québec, nous sommes la plus grande université au pays, avance-t-il. Nous avons une force de frappe exceptionnelle. M. Cloutier rappelle que la mission de l'UQ est différente de celle des autres universités. Nous formons le plus grand nombre d'étudiants de première génération à faire des études supérieures, souligne-t-il. Nous avons une responsabilité sociale de répondre aux besoins spécifiques du Québec. Et nous sommes bien implantés dans les régions. Le plan. Développer 225 places en médecine familiale à travers les différentes composantes de l'UQ en mettant à contribution la TELUC pour l'éducation à distance, ainsi que l'ETS et l'INRS pour le volet recherche. Après les universités Laval et de Montréal, c'est nous qui formons le plus de professionnels de la santé. Nous voulons former des médecins proches des milieux communautaires, des réalités autochtones et rurales, dit Alexandre Cloutier. À ceux qui estiment un peu fou de créer une cinquième faculté de médecine, l'ancien ministre péquiste cite l'exemple de l'Ontario. Ils n'ont jamais autant investi pour la création de nouveaux programmes de médecine, lance-t-il. L'Université York vient de recevoir 9 millions de dollars pour créer un bureau de projet. L'Ontario met les bouchées doubles alors que l'accès à un médecin de famille y est meilleur qu'au Québec. M. Cloutier rappelle qu'il y a actuellement 5 projets de nouvelles facultés de médecine au pays. On ne veut pas nuire à l'offre actuelle, on veut la bonifier. Le président de l'UQ est conscient que les autres universités risquent de s'opposer à son projet. Chaque fois qu'on a voulu offrir de nouveaux programmes, que ce soit en génie ou en droit, on a fait face à une opposition. Aujourd'hui, on ouvre notre jeu, on propose un dialogue pour trouver des voies de passage. Le statu quo me semble intenable. Prochaine étape, mettre sur pied un bureau de projet et lancer des consultations et s'entendre avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur une feuille de route. À suivre, donc. C'était « Comment casser le moule du médecin stéréotypé », une chronique de Nathalie Collard, parue le 26 mai 2024 dans La Presse.
Le fromage et l'argent du fromage. Un texte d'Hélène Barry, paru le 1er avril 2024 dans La Presse. Vous l'avez peut-être remarqué. Au supermarché, les camemberts et autres fromages français qui ont traversé l'Atlantique éclipsent souvent les fromages locaux vendus plus cher. C'est un peu à cause de l'accord économique et commercial global conclu en 2016 entre l'Union européenne et le Canada. On croyait cette question réglée depuis sa ratification en 2017. Le traité de libre-échange conclu entre le Canada et l'Europe était presque de l'histoire ancienne avant que le Sénat français ressuscite la controverse qui avait entouré les négociations et la signature de l'accord. Le Sénat français a rejeté majoritairement le traité de libre-échange dont les principales dispositions sont pourtant en vigueur depuis 7 ans. Si l'Assemblée nationale, qui avait approuvé l'accord de justesse en 2017, n'infirme pas la décision du Sénat, la survie du traité sera incertaine. Comme c'est souvent le cas lors des négociations des ententes de libre-échange, c'est la question de l'agriculture qui rencontre le plus d'embûches. C'était le cas quand l'accord a été négocié, alors que les éleveurs européens craignaient d'être envahis de bœuf canadien. C'est encore le cas aujourd'hui, même s'il y a d'autres aspects de l'accord qui restent controversés. Le vote du Sénat survient dans une période d'intenses tensions entre le gouvernement français et les agriculteurs, qui sont descendus en masse dans les rues pour réclamer de meilleurs prix pour leurs produits et la fin des importations en provenance de pays où les normes sont moins contraignantes. Même vieux de 7 ans, l'accord économique et commercial global avec le Canada vient d'être embarqué dans le train des revendications des agriculteurs pour des raisons politiques plus qu'économiques. Qui gagne, qui perd? En théorie, les accords de libre-échange font des gagnants des deux côtés de l'équation et les petits pays ont généralement plus à gagner en éliminant des entraves au commerce parce que ça leur donne accès à un plus grand marché. Dans la réalité, l'impact réel se mesure difficilement avec précision, surtout sur une courte période. Il y a généralement des gagnants et des perdants dans chacun des secteurs d'activité et globalement, l'impact est positif pour toutes les parties. Jusqu'à maintenant, les chiffres nous disent que l'accord Canada-Europe a donné une impulsion importante au commerce entre les deux parties. Les échanges commerciaux entre le Canada et les pays de l'Union européenne ont augmenté de 51% entre 2017 et 2023, selon le bilan du gouvernement français. L'augmentation a été égale des deux côtés. Les exportations des pays européens vers le Canada ont augmenté de 51% et les importations de l'Europe en provenance du Canada ont crû de 52%. À elle seule, la France a augmenté ses exportations vers le Canada de 33% et ses importations en provenance du Canada de 35%. Au total, le commerce entre les deux pays est largement à l'avantage de la France, qui affiche une balance commerciale positive. Plutôt que d'alimenter la colère, ce bilan devrait réjouir les agriculteurs français parce que la hausse des exportations de la France vers le Canada est surtout due aux produits agricoles. Le secteur agroalimentaire français, dont le lait, le fromage et le vin, a bénéficié de l'ouverture du marché canadien. C'est particulièrement vrai pour le fromage français, dont les exportations vers le Canada ont augmenté de 60% entre 2017 et 2023, ce qui peut expliquer sa présence accrue dans nos supermarchés. En même temps, le bœuf canadien qu'on craignait tant de l'autre côté de l'Atlantique n'a pas envahi les comptoirs des supermarchés. Loin de là, les exportations de bœuf canadien vers l'Europe et vers la France restant inférieures aux quotas fixés lors de la signature de l'accord. La France n'est pas le seul pays à n'avoir pas encore ratifié l'accord économique et commercial global avec le Canada. 9 autres pays sur les 27 de l'Union économique n'ont pas encore franchi officiellement toutes les étapes qui doivent mener à son adoption finale. Un enterrement du traité de libre-échange Canada-Europe est difficile à envisager pour toutes sortes d'autres raisons. Ça enverrait un drôle de signal alors que la guerre en Ukraine s'éternise et que le monde occidental veut s'affranchir de la Chine. Si, en plus, on assiste au retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, les Européens n'auront jamais eu autant de besoin d'amis comme le Canada. C'était « Le fromage et l'argent du fromage », un texte d'Hélène Barry paru le 1er avril 2024 dans la presse.